Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus, il est midi, et comme tous les troisièmes samedis du mois, c'est Angle d'attaque qui occupe les ondes du 106,6 MHz, écoutable également en DAB+, et sur le site internet de Radio Campus. Attaque ADETAC, Association pour la taxation des transactions financières, est une association d'éducation populaire orientée vers l'action. Nous avons aujourd'hui autour de la table nos habitués, Ludovic, Florent et René. Quel est le sujet du jour? Nous allons parler d'énergie. Alors on entend bien énergie au pluriel, un sujet qui n'a peut-être pas été assez creusé pendant la campagne présidentielle récente. Et c'est pourtant littéralement le carburant de notre société. Quelles énergies pour demain? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et on va essayer d'y répondre. Vaste sujet qu'on va essayer de couvrir. Notre invité du jour qui est là pour nous aider, il s'agit de Paulo Sérgio Lopes, président de Virage Énergie. Virage Énergie, c'est une association qui est implantée sur la région depuis 2006, qui travaille en partenariat avec des laboratoires de l'Université de Lille, le conseil régional et l'ADEME au niveau national pour élaborer des scénarios régionaux de transition énergétique et proposer des outils de sobriété. Bonjour Paulo Sérgio.
Bonjour.
C'était une présentation rapide, je vous laisse peut-être compléter.
Effectivement, donc Virage Énergie a été créée en 2006 dans la région et elle avait vocation à l'époque à produire des scénarios de transition énergétique émanant d'acteurs citoyens, vu qu'il n'y avait pas à l'époque de scénario au niveau régional de tout ce qui était transition énergétique. On était à une époque où il y avait certes des scénarios nationaux, mais pas des scénarios au niveau de la région, en l'occurrence à l'époque Nord-Pas-de-Calais. Et on a créé cette association pour mettre dans le débat public à la fois la question énergétique, notamment on est sur une posture de sortie nucléaire et tout à la fois d'atteinte des objectifs de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, comme prévu déjà par la loi il y a déjà quelques années. Et donc on a produit des scénarios pendant une dizaine d'années et à partir de 2016, on a changé notre manière de faire et notre modèle pour plutôt être dans l'accompagnement du territoire ou de collectif des citoyens pour former, sensibiliser, explorer de nouveaux sujets, toujours au niveau de la transition énergétique, et en particulier sur la question qu'on va aborder aujourd'hui, de la sobriété.
Très bien, merci. On peut commencer avec une première question de Ludovic.
Oui, alors la question nucléaire pose la question de la pérennité du nucléaire, de par ses caractéristiques intrinsèques, à savoir qu'elle utilise de l'uranium ou du thorium, qui sont des matériaux qui ne sont pas en quantité illimitée. Et donc la question, c'est effectivement la question de la soutenabilité. Est-ce que, en matière d'approvisionnement, est-ce que la France peut en matière d'approvisionnement en termes d'uranium, est-ce qu'elle a la possibilité de pouvoir tenir des dizaines d'années, sachant qu'il y a des tensions sur le marché, il y a de plus en plus de pays qui ont recours au nucléaire, qu'il y a également, on le sait, donc la France va extraire de l'uranium, notamment au Niger, mais aussi au Kazakhstan et à l'Ouzbékistan. Or, ces deux pays sont dans l'orbite, comme vous savez, de la Russie, et au regard de l'actualité que l'on sait, ça peut poser problème. Donc, est-ce qu'on peut établir un peu un état un peu objectif de ces questions, sur cette question d'approvisionnement? Est-ce que la France a les conditions de pouvoir s'approvisionner de manière relativement pérenne, eu égard, encore une fois, à son projet d'accroître le parc nucléaire?
Effectivement, on va resituer les choses. L'idée généralement reçue dans le débat public et même par les tenants du nucléaire, c'est de dire que le nucléaire est un facteur de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la nation. La problématique, c'est que 100% de l'uranium utilisé dans les 56 réacteurs actuels du parc n'émanent pas du territoire national, émanent, comme vous l'indiquez, de pays donc étrangers, Kazakhstan, Ouzbékistan, Australie, Niger. Donc 100% de cet uranium est importé. Effectivement, on avait à l'époque dans le Massif central notamment de Limousin des mines, mais elles ont été progressivement fermées en fin des années 90, début des années 2000. Voilà. Ce qui fait qu'en soi, c'était plus un facteur de souveraineté pour ce qui est de l'uranium. Après, il y a une manière de présenter par l'industrie nucléaire de dire que ils essaient de retraiter le nucléaire, plutôt l'uranium utilisé déjà par les réacteurs nucléaires, mais en fait, il n'y a qu'une légère partie de l'uranium utilisé par les actuels réacteurs qui sont vraiment recyclés, qu'une infime partie. Néanmoins, elle aura toujours besoin de 100% d'importation pour faire tourner ou tenter de tourner les 56 réacteurs actuels.
Oui, et au niveau mondial, les réserves globales d'uranium ou de thorium, on peut les estimer, est-ce qu'elles, combien de temps nous permettrait-elles de tenir?
Bah, disons qu'au rythme actuel, elles peuvent encore tenir plusieurs décennies, c'était pas trop la thématique. Néanmoins, par les tenants nucléaires, c'est de savoir de quelle manière ils peuvent proposer des manières de recycler. Et cette manière de présenter les choses, c'était vraiment pour faire perdurer encore le parc nucléaire mondial qui est l'ordre de 400 à 450 réacteurs vraiment au niveau mondial, alors qu'il y en a 56 au niveau national.
Mmh. Alors, une question de ce type qu'on se peut poser, c'est comparer par exemple, donc là on parle aujourd'hui principalement du modèle énergétique, enfin du mix énergétique français, mais on peut comparer par exemple au mix énergétique qui a été choisi en Allemagne, où on s'appuie a priori sur des ressources fossiles pour faire une transition vers les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut critiquer ce modèle? Est-ce qu'on peut copier ce modèle? Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, il y a un point à préciser d'emblée. Quand on parle du mix électrique et du mix énergétique, ce qui ne relève pas de la même chose. Oui. L'électricité, c'est bien un vecteur utilisé, mais les débats en général au niveau français confondent les deux thématiques. Et si on imaginait que le mix électrique en France, en gros, 75 à 80% d'électricité, elle émane du parc nucléaire. Le restant, il y a 10% d'hydraulique et les énergies renouvelables et une petite partie pour de l'énergie carbonée. Voilà. Donc, je fais attention pour les chiffres, de la même façon que pour le mix énergétique, en gros, vous avez 20% ou 25% de l'énergie finale consommée qui est sous forme d'électricité. Donc, ce qui fait qu'il y a trois quarts du problème, globalement énergétique, qui est l'ordre de hors électricité. Donc, le problème était que c'est qu'on focalise souvent sur simplement l'électricité. Concernant l'Allemagne, en fait, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire, elle est effectivement en cours de transition énergétique pour baisser son énergie carbonée. Donc c'est assez clair, en fin d'année, présente année, de fermer son dernier réacteur nucléaire. Donc c'est-à-dire que c'est déjà acté, il n'y aura pas de retour en arrière, globalement. Et dans quelques années, elle aura fermé, c'est acté dans le programme de l'actuelle majorité, fermé dès les mines de charbon et les centrales au charbon. Donc ils sont toujours sur cette optique, notamment pour le côté approvisionnement pour l'électricité. Néanmoins, ce qui va poser problème, sérieusement, pour le transition énergétique en Allemagne, c'est déjà de trouver donc d'autres sources que le gaz russe, globalement, d'où la question du terminal méthanier à mettre en place sur la côte de Mar du Nord, globalement. Mais surtout que ce qui pose question, c'est qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts, on y viendra, sur la baisse de la consommation énergétique. Et certes, on focalise beaucoup sur ce qui est des éoliennes, du photovoltaïque et de la fin nucléaire, mais c'est l'électricité. La problématique vraiment centrale, c'est vraiment déjà de diminuer la consommation bâtiment et l'industrie pour vraiment faire face aux défis de la fin des énergies carbone.
On va pas faire un débat sur la situation allemande, même si c'est tout à fait intéressant. Il me semble quand même que le gouvernement allemand a quand même laissé entendre qu'ils allaient relancer le charbon. C'est fake news ou c'est moi qui ai mal
Ils l'ont prolongé Non, même pas.
Non, c'est-à-dire qu'ils sont toujours actés sur les mêmes dates de sortie du charbon pour ce qui est, je précise bien, de la production d'électricité.
D'accord.
La politique principale en Allemagne, elle est quand même sur tout ce qui est consommation en termes de chaleur pour le tertiaire, les habitats et pour l'industrie. C'est ça la problématique vont, qui posent le plus de problèmes, ils ont des défis très importants. L'essentiel de leurs investissements au cours des dernières années était sur le volet électricité, pas hélas sur le côté chaleur.
Et du coup, si on compare à la situation de la France actuelle, quand on parle de soutenabilité dans la consommation, donc vous rappelez qu'une grande part de la consommation énergétique est hors électricité, donc on va s'intéresser au chauffage, on va s'intéresser au transport. Si j'ai bien compris, c'est là où en France, il y a des progrès énormes à faire, en fait.
Il y a toujours des progrès énormes à faire, à la fois sur le côté résidentiel et tertiaire, l'habitat, globalement, c'est-à-dire la mise à jour vraiment de l'habitat. Or, pour l'instant, c'est... Le renouvellement du parc, c'est 0,5-1% par an. Donc, on ne va pas faire ça, on ne va pas attendre un siècle pour renouveler vraiment le parc d'habitat. Et surtout, le cas de transport, parce qu'en valeur absolue, ça continue d'augmenter de manière assez conséquente, puisqu'on a beaucoup favorisé, et on continue de le faire hélas, le transport de marchandises sur camion, non pas sur train, et d'une façon qui n'a pas tant de restrictions que ça sur l'usage de l'automobile. Contrairement à ce qu'on peut penser en termes de baisse de la vitesse ou d'autres éléments, il n'y a pas vraiment de vraiment politique pour restreindre l'usage individuel de la voiture. Donc il y a deux aspects principalement, l'aspect du transport, notamment marchandises, et l'aspect de l'habitat et du chauffage des habitats.
Alors, toujours sur le nucléaire, et pour reprendre souvent des poncifs qu'on entend, alors qu'il faudrait évidemment critiquer, ce qu'on entend souvent, c'est que le nucléaire émet très peu de CO2. Est-ce que vous pourriez éventuellement peut-être revenir là-dessus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose... Parce qu'il me semble que ça émet quand même, alors si j'en crois, ça émet de l'hexafluorure de soufre. Et ça émet également d'autres particules. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Et puis après, il y a aussi la question de la construction d'une centrale. La construction d'une centrale, ça émet aussi des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut un peu critiquer un peu cette idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est une idée qui est fondée ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est critiquable?
Normalement, pour être précis, il y a deux éléments. Sur la production en elle-même, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. La production en elle-même. Néanmoins, si on regarde l'ensemble de la filière nucléaire, c'est-à-dire de l'extraction de l'uranium, de sa transformation, de son transport, de la production et, ce qui est souvent mal montré, la question du retraitement des déchets, il y a toujours des émissions de gaz à effet de serre. En fait, il y a des comparatifs entre différentes sources de production d'énergie. Et effectivement, si on voit l'analyse du cycle de vie, il y a très peu d'émissions de gaz à effet de serre, CO2 et autres, par l'industrie nucléaire, par le cycle nucléaire. Mais c'est un peu du même tenant que, à peu de choses près, que l'éolienne. Voilà.
En fait, là où on peut revenir sur cette question du nucléaire ou des énergies électriques, c'est que de ce qu'on comprend de l'orientation des politiques actuelles, c'est qu'on veut beaucoup convertir des consommations, par exemple le fait de passer à la voiture électrique, ou peut-être même le train, le fait de retourner au train, ça veut peut-être dire électrifier une consommation qui est aujourd'hui carbonée. Et si on a ces transitions vers de l'électricité, on aura plus de consommation électrique. Et donc se pose la question de dire comment on fait, ou alors est-ce qu'on continue de faire comme avant, comme c'est annoncé, avec de nouvelles générations de réacteurs ou des nouveaux réacteurs?
En fait, il y aura deux éléments de réponse à ce propos. Ce que vous indiquez en termes de voitures électriques, c'est vraiment l'optique qui était notamment dans la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire d'électrifier des usages, c'est-à-dire qu'on passerait d'une voiture, effectivement, je caricature diesel, une voiture électrique, globalement. Donc là, c'est bien dans les stratégies nationales de se dire qu'on faut basculer de l'empreinte carbone vers cet usage électrique. Mais le problématique, mais on le verra tout à l'heure en termes de besoins, ça n'interroge pas les impacts de l'usage même de la voiture. Ça n'interroge même pas le taux d'occupation des véhicules. Comme si c'était substituable. Donc sans s'interroger sur les besoins, sans s'interroger sur les externalités du basculer à l'électrique. Je vais vous donner un exemple qui date du mois d'octobre. Vous avez un organisme qui s'appelle Réseau du transport d'électricité, RTE, qui n'est pas connu pour avoir des positions écologistes, qui est en charge du réseau et de l'équilibre entre l'approvisionnement et la consommation. Donc, toute sa fonction, c'est à chaque seconde, à chaque jour, à chaque mois de l'année, il faut qu'il y en ait l'équipe sur le réseau. Et ils ont fait des scénarios de consommation à l'échéance 2050 et des scénarios de production. Et une hypothèse, mais là, on les voit les responsables, c'est de dire, oui, mais si vous voulez absolument des voitures électriques partout, ça indique nécessairement que vous allez impacter sur la production. C'est-à-dire que vous allez forcément vous créer un débouché pour la production. Et donc, en l'état actuel des choses, ça va être compliqué. Donc, on ne peut pas délier d'un côté la consommation, des prescriptions sur la consommation, de ce qu'il peut y avoir en conséquence sur la production.
Vous m'offrez une transition parfaite, parce qu'on se posait des questions quand on parle... Donc on parle de transition écologique, mais on parle aussi de sobriété, d'efficacité. Et une des questions qu'on s'était posée lors de la préparation de cette émission, c'était vers quel modèle de société on va. Et donc là, littéralement, enfin, en réinterprétant ce que vous dites, on passe d'un modèle, on veut électrifier pour baisser l'intensité carbone de certains usages, mais en fait, il se pose aussi la question de comment on veut vivre demain, et est-ce qu'une société bas carbone, c'est pas une société qui est très différente de la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Effectivement, le modèle, enfin, la société dans laquelle on est, elle est, disons, en état d'ébriété énergétique. C'est-à-dire qu'elle est, le plus souvent, elle ne s'est jamais interrogée vraiment sur les impacts de son modèle de consommation. Le plus souvent, il y a des réponses technologiques ou techniques qui sont apportées par décisionnaires pour dire voiture électrique, passage à des mutations industrielles en utilisant de l'hydrogène, ainsi de suite. Toujours des conscients ou des propositions en termes technologiques. Donc sans s'interroger sur le besoin individuel, personnel ou même collectif. Globalement. C'est ça la problématique pour nous, ce qui fait qu'il y a déjà 4-5 ans, quand il y a eu un débat national sur l'énergie, nous étions une des seules structures à avoir déposé un quai d'acteurs où on avait focalisé sur la question de la sobriété, c'est-à-dire qu'on partait de la consommation. Et nous, comme Negawatt par ailleurs, on se base sur le triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable. On ne commence pas par la question des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, photovoltaïque ou autre. On pense d'abord à la question donc, de la consommation. Donc il y a ou bien sobriété ou bien efficacité. J'enlève la partie efficacité qui est très sur le côté technologique, du style à l'usage habituel d'un bâtiment. Si on le rénove, donc il y a une baisse de la consommation, mais c'est d'un point de vue purement technologique, c'est de l'efficacité. Et si par exemple, vous avez des contraintes pour vous rendre sur votre lieu de travail et que vous n'avez pas le choix d'aller en voiture sur votre lieu de travail, si vous changez de véhicule, vous gagnez en efficacité puisque vous avez pris un modèle différent, peut-être moins consommateur. Mais la question qu'on se pose, c'est toujours, c'est au départ, quel est le besoin initial de la personne ? Quel est le besoin initial d'une société pour... Est-ce qu'on peut se dire que si elle a besoin de se déplacer, de quelle manière on peut l'aider à se déplacer autrement ? Peut-être de se déplacer collectivement, d'où pour nous tout ce qui est question de mode actif, vélo, piéton, marche dans la ville, essentiel. Tout ce qui peut être de l'ordre du covoiturage ou de l'autopartage est essentiel pour être moins contraint par l'usage de voiture. 90 à 95% du temps, une voiture reste sur place, elle n'est pas utilisée. D'un point de vue même écologique, une bonne voiture écologique, je caricature, c'est une voiture qui circule tout le temps. Parce qu'en fait, au moins elle sert à quelque chose. Pas à rester simplement 5% de son temps sur la voirie. Et qu'elle soit du surcroît partagée, parce qu'on a eu des besoins à des temps particuliers, mais on n'a pas besoin tous d'acheter une voiture ou d'utiliser tout le temps une voiture. Donc la question des besoins, que ce soit sur des besoins de l'ordre de la mobilité, des besoins en termes d'habitat, c'est-à-dire que notamment, on est plutôt des adeptes de l'habitat partagé. C'est-à-dire que, de même façon, sur des questions liées à l'alimentation ou des questions vraiment liées à l'agriculture, là, la question, là, on parle des besoins. Ce qui fait que, dans nos différents scénarios, dans la sortie 3 entre 2006 et 2016, on a beaucoup indiqué à la fois que, dans chaque pan de sa vie, on peut être plus sobre en changeant son comportement. Mais on changeait d'autant plus de comportement qu'on était accompagné par des politiques publiques, globalement. Et par ailleurs, il y avait aussi le point pour nous d'être en mode systémique. C'est-à-dire que si on change, si on veut faire de la sobriété, c'est pas simplement d'un point de vue purement individuel, mais il faut qu'effectivement qu'il y ait un travail au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, d'un collectif d'habitants pour changer les pratiques. Comme j'aurais dû vous l'indiquer au départ de la présentation du Virage, Virage est membre de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Un des points principaux qu'a mené la MRES au cours de ces dernières années dans différents territoires de l'Aix-Nord-Pas-de-Calais, c'est les défis énergie, défis mobilité et défis alimentation. C'est-à-dire qu'on partait d'un état des lieux, d'une pratique quotidienne d'une famille ou d'un foyer, pour la faire évoluer, pour diminuer son bon empreinte en changeant moins d'impact dans la vie quotidienne. Et en fait, la MRES a montré que, effectivement, en changeant certaines pratiques, on pouvait diminuer la hauteur de ses besoins et donc ses impacts sur l'environnement, au sens large du terme.
D'accord. En fait, je vois deux questions, mais qui sont l'une à côté de l'autre. C'est qu'on a d'un côté la consommation énergétique, et donc du coup comment on y répond, avec du carburant, du gaz, de l'électricité. Et de l'autre côté, l'intensité énergétique qui est autour, par exemple, de l'énergie grise, le fait qu'on ait un certain nombre de voitures, ça veut dire qu'on a une certaine consommation énergétique pour produire ces voitures, si on garde l'exemple de la voiture. Et donc, du coup, ça fait un lien aussi, parce que une des questions sur ce modèle de société, c'est qu'on a une forte volonté en France, de tous les partis politiques d'ailleurs, de réindustrialiser. On a vu avec la situation du Covid, on veut retrouver des entreprises en France, un maximum de production en France, enfin du moins sur des besoins identifiés, et se pose la question du plus d'industrie ou plus de fabrication en France, ça veut dire aussi plus d'énergie à consommer. Et du coup, est-ce que on l'inclut ça directement dans la réflexion en disant s'il faut produire plus localement, comment on produit ?
Et ça veut dire aussi plus de pollution.
Ah oui, c'est par voie de conséquence aussi.
Mais effectivement, la question se pose quand, au début de votre intervention, vous indiquez on va regarder d'abord le cas français. Mais en fin de compte, il faut rappeler qu'une partie de notre empreinte carbone, elle émane de biens de consommation qui ont été produits à l'extérieur des frontières et qui sont apportés par les ports et par les ports habituels. Et l'idée pour nous, généralement, c'est de rappeler que c'est l'empreinte carbone en général qu'il faut prendre en considération. Donc le fait en soi de relocaliser des activités économiques sur le territoire national, en soi, ça permet de responsabiliser en amont l'action de la consommation, c'est-à-dire qu'on voit très bien l'industrie qui va nous fournir sur le territoire, ça entre dans notre paysage. Donc cet aspect de relocalisation d'activités économiques, quelle qu'elle soit, c'est en soi une bonne manière pour réinterroger la question de la consommation. Est-ce qu'on a autant besoin de portables et changer de manière très régulière ? Est-ce qu'on a autant besoin de voitures électriques et de batteries avec ? Parce que qui dit ce mode de consommation induit donc des impacts de la vie quotidienne, parce qu'il faudra bien extraire les matières premières pour ces produits de consommation.
Matières premières que nous n'avons quasiment pas. En plus, dans notre sol.
Nous importerons de toute façon.
Une bonne partie des matières premières dont nous, dans nos biens de consommation quotidiens, sont importées. Et donc, c'est en dehors de notre paysage et de notre imaginaire. On se dit, tiens, c'est loin. L'usine est loin. L'extraction, elle est loin. Et pendant les années 80, mais pas que, et puis les années 80, vous avez une phase de désindustrialisation, ce qui fait qu'on exportait en Asie ou dans d'autres pays cette production. Mais en fin de compte, politiquement parlant, c'est très intéressant de rediscuter de la relation d'activité pour dire vous voulez une souveraineté nationale, vous voulez, ça interrogera donc votre manière de consommer, de vous nourrir, parce que la question de la consommation de produits alimentaires, elle n'est pas anodine en soi, on s'en fout. Souvent, on focalise sur les portables et autres, mais s'interroge également sur notre manière de consommer des produits alimentaires de la vie de tous les jours. Est-ce que mon appétence pour des produits carnés, est-ce qu'elle est tenable à venir dans quelques années, en termes d'empreinte carbone? Donc ça réinterroge notre manière d'agir au quotidien, nos habitudes. Or, les habitudes des habitants, enfin des citoyens, ont quand même beaucoup évolué depuis 30-40 ans. Donc, personnellement, je ne désespère pas qu'il y ait quand même un changement de comportement individuel qui d'abord doit se baser sur des décisions collectives et des démarches collectives pour changer ces pratiques.
Sachant que ces pratiques sont quand même extrêmement présentes, enfin, y a vraiment quelque chose de... C'est presque une transformation anthropologique ce que vous proposez, ce que Virage Énergie et ce que d'autres proposent, en fait. C'est de se déprendre, en fait, de se désintoxiquer, en quelque sorte, d'une dépendance à ce qu'un anthropologue italien, là, qui a publié un bouquin très intéressant qui s'appelle Homo Confort, de ce justement, qui montre bien que comment on est aussi. On est extrêmement dépendant et on aime beaucoup ce confort, alors peut-être illusoire, hein, mais un confort quand même que nous offre une société d'abondance dans laquelle on est. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un peu oublié le fait qu'on vit dans une société d'abondance. Et d'ailleurs, la question de la sobriété n'a de sens que parce qu'on est une société d'abondance. Une société, je pense que les Burkinabés en Afrique ne se posent pas la question de la sobriété. C'est une question de riches, en quelque sorte. De gens qui vivent dans un confort, dans une forme de société d'abondance moi j'ai par exemple, des amis par exemple qui n'ont pas forcément envie de prendre ne serait-ce qu'un vélo électrique pour aller au travail parce qu'ils ont peur d'être en sueur, quoi. Parce qu'il n'y a pas de douche dans leur entreprise. Bon, ce qui montre bien, encore une fois, alors qu'il y a des millions de gens sur cette planète qui se déplacent pour aller à l'école le matin, qui font 3, 4, 5, 6 kilomètres sous la chaleur et qui ne se posent pas la question. On est drogué à ce confort, en quelque sorte. Et du coup, comment faire accepter du coup, c'est la question qui est lancinante.
Alors, je vais vous donner un exemple qui trait à la manière dont on est intervenu sur la question des plans climat territoriaux. Mmh. Souvent, dans des bassins de vie, dans des intercommunautés, réglementairement, mettre en place ces plans climat air, énergie, territoriaux, pour être exact. Et souvent, c'est un côté ingénieur de tableur Excel, du style, combien de mètres carrés de photovoltaïque je vais mettre en place, combien de habitats je vais rénover, souvent. Mais normalement, le côté science sociale, usage, c'est juste à la fin. C'est un paragraphe. Enfin, c'était ça. On commence à faire évoluer les choses. Et le côté territorial, il est souvent mis de côté. Et en fait, nous, dans les propositions qu'on a faites, notamment, et ce qu'on a fait sur, notamment, le Douaisi, c'est déjà de faire des balades urbaines ou de travailler avec des personnes relais pour dire, dans votre environnement au quotidien, l'empreinte énergétique, elle est partout. C'est-à-dire, dans vos décisions, dans l'usage de votre environnement, tout est énergétique. Sauf que on est vulnérable, très vulnérable. Et à l'époque, il y a 3-4 ans qu'on a relancé cette démarche-là, en disant, faites attention, si vous avez un à-coup énergétique du jour au lendemain, augmentation du prix de la pompe, augmentation de votre abonnement au gaz, ainsi de suite, vous serez vulnérable et collectivement, nous serons vulnérables. Et ces balades urbaines, on les a beaucoup travaillées sur le Douaisi, globalement. On a fait aussi un travail sur la région de Dunkerque pour indiquer que l'empreinte énergétique, elle a une histoire, il y a quelques années, mais on peut la faire évoluer dans les jours, dans les semaines, enfin plutôt les années à venir. Donc à une époque c'était des moulins dans les Flandres, peut-être qu'on va revenir à des moulins des éoliennes. Donc l'histoire n'est pas à sens unique, en quelque sorte.
On va encore dire que les écolos sont des gens rétrogrades. Voilà, on en a encore un bon exemple. Retour au moulin.
On va marquer une pause musicale et puis on revient juste après.
Il était une fois, il n'y a pas du tout longtemps de ça, une armée de scientifiques qui ont écrit des articles. On a lu, on s'est dit, ça fait peur ce qui est écrit. C'est quoi, c'est ça la Malek? C'était le rapport du GIEC. Ça disait qu'en 2100, y'aurait plus de Nouvelle-Orléans, y'aurait plus de Miami, sans doute plus de New York aussi. Mais 2100, c'est loin, nous, on s'en bat les reins. Balek, les océans, on sera mort depuis longtemps. Mais pas toi, pas toi. Et nous on est foufou, on brûle la vie par les deux bouts. C-A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Et si tu veux voir Jakarta, eh bah vas-y maintenant. Ah, tu peux pas t'accueillir. que 3 ans. Si tu veux pas crever de chaud, va falloir être plus écolo. Parce que nous, on va mourir, mais toi, tu vas grandir. Quand on sera mort et que tu seras grand, qu'il fera 50 degrés au Mans, faudra pas venir te plaindre de devoir aller vite dans l'Indre. Va falloir y mettre du tien, parce que le monde qui vient, on va le quitter bientôt. C'est pas nous qu'on va manquer d'eau. Non, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est toi. Parce que nous, on est foufou, on brûle la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-D-I-E-M. Carpe diem, c'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème et pas le mien. Sous prétexte que t'y peux rien, je devrais faire pour toi des trucs dont je ne profiterai pas. Mais toi tu fais quoi pour nous, à part nous coûter des sous, crier fort dans les transports, te réveiller à 6h. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à écrire aux dirigeants. Mais sans vouloir te décevoir, faut pas que t'y mettes trop d'espoir. Eux il leur reste au mieux 20 ans pour croquer la vie à pleines dents. Tu sais il faut les comprendre, ils ont autre chose à défendre. Que toi, oui que toi. Tu sais eux ils sont foufou, ils brûlent la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, pour ça qu'ils font rien du tout. Parce que tout ça c'est ton problème.
C'était Guy de Ré Carpe Diem. Et donc, on passe à la suite de l'interview.
Oui. Donc, après avoir abordé l'aspect, je veux dire, sociétal de cette transition énergétique, on va revenir un peu sur les aspects techniques. D'après vous, quelles seraient les énergies à adopter et à rejeter pour ce modèle de société à venir?
Vous tentez la perche. En fait, on est plutôt sur un modèle historiquement décentralisé. Donc, c'est-à-dire que, notamment pour tout ce qui peut être de l'ordre du photovoltaïque et de l'éolienne ou de la biomasse, mais dans le sens où le choix, ça ferait collectivement en termes d'aménagement du territoire, globalement. C'est-à-dire que le plus souvent, on est assez adepte que avec énergie partagée, avec Enercop, entre autres acteurs, il y ait vraiment des centrales photovoltaïques de village ou de quartier qui permettent à la fois que les gens s'approprient cette question de la production, mais qui en retour se posent des questions sur leur propre consommation. Donc là, c'est l'aspect décentralisé qu'on affecte le plus souvent. Ce qui peut être vraiment le, à contrario, ce qui est l'énergie qui ne favorise pas, à notre sens, la transition énergétique, c'est bien la question du nucléaire qui, je donne un exemple du parc nucléaire actuel, assez vieillissant au demeurant. Vous avez 56 réacteurs en fonctionnement actuellement en France, enfin en fonctionnement de façon de parler, puisque le facteur de charge, le taux de fonctionnement, il est assez bas. En ce moment. C'est-à-dire que souvent on présente le nucléaire comme une énergie de transition, sauf que ça fait plus de 40 ans qu'elle existe, donc la transition est quelque peu longue, en tout cas pour la génération actuelle. Et les réacteurs nucléaires, que ce soit sur Gravelines ou d'autres, il y a quasiment un peu plus de la moitié qui ne fonctionne, donc c'est-à-dire quasiment l'autre moitié ne fonctionne pas, pour diverses raisons, à la fois des problèmes de corrosion, donc de problèmes génériques sur les réacteurs, d'entretien et de maintenance annuelle, ce qui est tout à fait normal pour une structure de production, et de visite décennale. Alors quand on dit visite décennale, ça veut dire qu'il y a une visite assez longue, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour analyser de quelle manière un réacteur peut avoir 10 années plus de fonctionnement. Et là, la plupart des réacteurs, notamment ceux comme ceux de Gravelines, ceux dits de 900 MW, ben, comme ceux de Gravelines, chaque année, ils ont une visite décennale. Et donc, comme une visite décennale, donc où vous utilisez moins les réacteurs. Et donc, on a un facteur de charge qui est assez... problématique pour la France, pas que pour cette année, l'année prochaine et jusqu'en 2024. Donc on est dans des situations, disons, énergétiques complets. Effectivement, comme on a parlé, vous parlez de, on est une société d'abondance. Enfin, on était dans une société d'abondance. Maintenant, techniquement, je suis pas sûr que ça puisse suivre d'un point de vue du nucléaire. Voilà. À force de mettre ses œufs, ou en tout cas ses investissements sur une, principalement une seule source d'énergie, on a les complexités en retour.
Oui. Justement, que penser de la définition qu'a donnée l'Union européenne du nucléaire, c'est-à-dire qu'elle la considère comme une énergie verte? C'est problématique,
C'est assez problématique puisque, ça n'a pas fait l'unanimité parmi les pays de l'Union européenne, puisqu'il y en a plusieurs qui ont déposé une requête devant la Cour de justice de l'Union européenne, donc ce n'est pas forcément définitif. Et en deux, c'est essentiellement, non pas un problème de définition, c'est un problème d'assurance, en fait. Le fait de mettre une taxonomie, enfin de dire que c'est énergie verte, en fait, c'est pour rendre plus acceptable pour les assurances le fait d'assurer ce type d'activité. Voilà. C'est simplement un problème d'assurance.
Ah oui.
Parce qu'en fait, jusqu'ici, les assureurs sont de plus en plus réticents à vouloir aider une activité industrielle de ce type, dont les coûts augmentent, non pas baissent, et dont la dangerosité est reconnue. Voilà. Donc là, simplement un problème de passe-passe en termes assurantiels. Ça peut permettre aux assurances d'avoir moins de crainte d'investir là-dedans, en fait.
Mm-hmm. On parlait de d'ébriété tout à l'heure. Il y a aussi la falaise de l'âge du parc nucléaire dont on parle de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, notre parc est vieillissant. Il faut faire des investissements très importants pour le remettre en état, ou bien il faut faire des investissements très importants pour le renouveler. Ce qui fait que est-ce qu'il n'y a pas un virage énergétique qui aurait été loupé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses anticipées? En fait, est-ce que la situation qu'on a actuellement demande, dans tous les cas, de prendre des actions fortes et rapides? On pourra noter d'ailleurs que sur le quinquennat précédent, il n'y a pas eu de grandes... il y a eu des directions qui ont été données, mais il n'y a pas eu de grandes actions, de grands investissements ou de grands chantiers qui ont été commencés. A priori, là, on ne va plus avoir le choix que de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une opportunité de pousser des alternatives? Et comment ça peut se faire?
Disons que même le Haut Conseil pour le climat, qui analyse vraiment les politiques climat portées notamment par le gouvernement, a dit qu'on n'est pas à la hauteur là-dessus. Concernant en fait, l'aspect purement plus énergétique, alors effectivement, on peut considérer que le mandat précédent, enfin le mandat qui vient de s'achever, mis à part la fermeture de 2 réacteurs nucléaires, en fait, il n'a pas pris les décisions adéquates forte dans un sens ou dans un autre pour se dire que d'atteindre des objectifs de mix énergétique, c'est durant ce mandat qu'il faudra choisir. Qu'on soit pour les énergies renouvelables ou contre les énergies renouvelables, peu importe. Là, on n'aura pas le choix. RTE, Réseau de Transport d'Électricité comme structure publique, a fait différents types de scénarios de consommation. Ça existe. Et à partir de ces scénarios de consommation, a vu dans chacun de ces 3 scénarios de consommation, différents scénarios de production. Et dans le scénario, modèle intermédiaire, elle a pu montrer que le 100% énergie renouvelable était possible, comme venir nous maintenir 80% d'électricité d'origine nucléaire. Donc la problématique, elle n'est pas technique. C'est-à-dire, globalement, on sait faire ce qu'il faudra. C'est un choix financier, on ne pourra pas tout faire, et un choix vraiment de modèle de société, parce que ce n'est pas anodin en soi de vouloir faire perdurer un modèle où les gens consomment énergétiquement autant. Voilà. Donc ce qui fait que, dans un sens ou un autre, prolonger ou pas les 56 réacteurs, investir ou pas dans des EPR, doit être impérativement choisi durant ce mandat-ci. On n'aura pas le choix. De la même façon que RTE a montré que, quelles que soient les volontés d'augmenter la consommation d'énergie, notamment électrique, on ne pourra pas couper avec l'usage du photovoltaïque et de l'éolienne. Donc, ce qui fait que dans le débat qui a eu lieu cette semaine au Conseil régional de financer une association qui s'oppose aux éoliennes, c'est pas anodin en soi. Donc, est-ce que les énergies renouvelables auront nécessairement une place plus importante qu'ils n'ont actuellement dans la production d'électricité? Je pense en particulier au projet de parc éolien au large de Dunkerque. Vous voyez quasiment de l'ordre de 500 à 600 mégawatts, enfin de l'ordre de 500 mégawatts qui sont prévus, les puissances installées. On va le voir arriver dans le mandat d'ici 2026. Donc ça va nécessairement, à nos sens, arriver, et ça va changer un peu le paysage du territoire des Hauts-de-France.
On avait des questions aussi sur, plutôt des projections sur est-ce que le nucléaire a un avenir sur des générations plus lointaines. C'est-à-dire qu'on parle régulièrement de fusion, on parle des réacteurs de génération 4 qui ont été abandonnés en France, on parle de tirer de l'énergie du retraitement de déchets nucléaires. Est-ce que le nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, on en comprend les limites, mais est-ce qu'il y aurait un potentiel nucléaire du futur ? Est-ce que c'est utile d'en parler ou est-ce que c'est quelque chose qui concernera que les gens qui travaillent dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Deuxième réponse. Quand on expose les travaux de Vierge Énergie, souvent on nous taxe d'être contre le progrès technique globalement. Personnellement, tout ce qui est recherche R&D de ce type n'est pas en soi, à terme, dans des dizaines d'années, à enlever de l'esprit. Par principe là-dessus. Néanmoins, alors qu'on a des échéances très importantes en matière de baisse de la consommation énergétique, je pense qu'à court terme, il y a plus de choses intéressantes à investir dans la baisse de la consommation énergétique qu'à vouloir impérativement se porter sur ce type de projet. Je ne les raye pas de la liste, néanmoins. Et en dernier lieu, je suis toujours un peu surpris par le fait que, depuis que j'ai commencé à militer, ce type de projet est toujours annoncé comme imminent à mettre en place. Sauf qu'il y a un décalque entre le fait de le voir validé scientifiquement, si tant est que ça arrive, et le fait de le déployer industriellement. Donc il y a un laps de temps assez conséquent. Et en dernier lieu, je suis toujours un peu surpris par la volonté absolument qu'on résolve un problème d'ébriété énergétique par une solution techniciste qui nous incite à consommer davantage à la fin. Voilà. C'est pour ça que je ne raye pas la R&D de mon esprit, pourquoi pas, il y a les travaux d'ITER, des travaux de quatrième génération, peut-être à terme elles vont être efficaces et peut-être qu'il faudra se reposer la question d'avoir un cours, mais dans les décennies à venir, je trouve ça peut-être potentiellement un peu contre-productif de se focaliser là-dessus.
Par rapport au projet de Bure, comment Virage Énergie voit ça, est-ce que ça vous paraît intéressant ou est-ce que vous êtes un peu en opposition par rapport à ce projet d'enfouissement des déchets ?
Là, on va être en clair totalement là-dessus. On doit être un des seuls pays à vouloir faire absolument ce genre de démarche, d'enfouir très au fond des déchets nucléaires, et ce pour des centaines, voire des milliers d'années. Ce qui, d'un point de vue géologique, n'a strictement aucun sens. Et en plus, on se perd la possibilité de les faire remonter à la surface et d'avoir d'autres solutions technologiques pour les retraiter. Donc, le fait de les entreposer, ce n'est pas en soi tellement le problème, c'est les enfouir aussi bas et qui, en quelque sorte, de manière... on ne pourra pas revenir en arrière. C'est la problématique et c'est un peu notre legs aux générations futures de laisser cette poubelle, en quelque sorte, à nos arrière-petits-enfants. Voilà, donc c'est pas si tant est que l'énergie nucléaire a quelque chose de durable, c'est bien ses déchets.
Si tant est que l'humanité existe encore, non.
Bon. Ben, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce qu'on a la partie suivante. Vous restez avec nous. On commence par l'agenda d'attaque.
Oui. Donc, les activités d'attaque, tout d'abord au plan national. Alors, Chapelle d'Arblay, victoire pour les PAPCHAP. L'usine de papier recyclé va enfin redémarrer. Après presque 3 ans de lutte, Chapelle d'Arblay, dernier site français de fabrication de papier journal et d'emballage 100% recyclé, est sauvé de la délocalisation. Sa production va pouvoir prochainement redémarrer. C'est une victoire pour les salariés et les salariés de l'usine et pour le collectif Plus Jamais Ça, dont Attac est l'un des membres fondateurs, qui se sont associés à cette occasion. Les luttes sociales et écologiques menées collectivement peuvent payer. L'usine avait été mise à l'arrêt depuis l'été 2020 par son ancien propriétaire, le groupe UPM, qui souhaitait délocaliser l'activité pour de simples raisons de rentabilité, en sacrifiant 217 emplois. C'est un véritable modèle d'industrie vertueuse pour la transition écologique, s'inscrivant dans la logique d'une économie circulaire qui va renaître. Se félicite le collectif Plus Jamais Ça. Ce bras de fer est le résultat de la lutte sans faille des représentants du personnel et de tous les papes-chapes, qui, je le rappelle, est le nom donné aux salariés de Chapelle d'Arblay, de la CGT, du collectif Plus Jamais Ça, des élus locaux et de tous ceux et celles qui ont soutenu cette action. C'est aussi le résultat d'un rapport de force avec le gouvernement mis face à ses responsabilités. Il y avait en effet incohérence entre appeler à relocaliser les activités industrielles et laisser fermer un site rentable et écologique.
Les relocalisations au service d'une rupture écologique et sociale, tel est le titre d'un rapport réalisé par Attac France, dont les auteurs sont Dominique Plion, mais également Léo Charles, Tristan Dupuis et Vincent Gay, qu'on peut télécharger donc, sur le site d'Attac, c'est 25 pages. Un rapport dans lequel on trouve des pistes donc, pour envisager donc, une relocalisation écologique, sociale et solidaire, et qui nécessite de débloquer donc des verrous institutionnels et de remettre en cause les règles du commerce international en réformant les textes de l'OMC et en remettant en cause les traités de libre-échange, tout en défendant des projets locaux qui permettent de bifurquer par rapport au modèle dominant et de répondre ainsi aux besoins sociaux et environnementaux. Donc c'est à lire sur le site d'Attac.
D'Attac France. Ensuite, la campagne Inégalité. Alors, Attac France appelle à poursuivre la campagne en vue des prochaines législatives et rappelle qu'il y a tout juste un an, l'organisation publiée Impôts, idées fausses et vraies injustices, petit manuel de désintox avec proposition de solutions concrètes en faveur de la justice fiscale, avec en prime de l'humour grâce aux illustrations de Fred Sauchard. Bien sûr, vous pouvez toujours vous le procurer. D'autre part, dans un récent article en date du 18 mai, l'Observatoire de la justice fiscale, qui est accessible à partir du site d'Attac France, interpelle sur la conditionnalité des aides publiques aux grandes entreprises, vu les distributions records de dividendes au cours de l'année 2021. Et je rappelle que ce samedi 21 mai, c'est la marche mondiale contre Monsanto Bayer.
Marche qui aura donc lieu aujourd'hui, il est au rendez-vous à 14h30 dans la place de la République.
Pour Lille, oui.
Voilà, avec effectivement les comités locaux d'Attac qui vont défiler avec d'autres organisations, dont Greenpeace, derrière la banderole du collectif local Plus Jamais Ça.
Et donc la marche elle rejoindra l'événement à la gare Saint-Sauveur organisé par la MRS qui s'appelle Et Demain.
Voilà. Dont notre invité parlait tout à l'heure.
D'accord. Poursuite de la campagne Inégalité, donc les trois comités locaux Attac de la métropole ont prévu deux journées d'action, le samedi 28 mai devant Euralille et le samedi 4 juin au marché d'Elem.
Alors, la gratuité des transports publics, qui, comme on le sait, nos auditeurs le savent, est un des chevals de bataille d'Attac Lille. Et donc, à cet égard, il y aura une distribution de tracts et signature de la pétition au marché de l'Épeul à Roubaix, le samedi, c'est pas le samedi 8 mai, parce que le 8 mai est déjà passé.
Pardon, oui. Ah non, ça a été pas grave.
Bon, voilà, c'était un événement qui a eu lieu. Mais ce qui ne nous empêche pas éventuellement de signer la pétition.
Oui, il y en a d'autres de prévus, ça, voilà, mais je ne sais pas les dates exactes. Retour sur Utopia 2022, les utopies qui tuent. Alors, comme vous le savez, il y a eu la parade des financeurs et la remise du parpaing vert, c'était le samedi 7 mai. Donc une belle déambulation remarquée et réussie qui a rassemblé 150 à 200 militantes et militants, débordant d'imagination et de créativité, qui s'est exprimée, l'imagination et la créativité, bien sûr, au travers de déguisements et de visuels originaux et variés. La déambulation était ponctuée par des cérémonies de remise du parpaing vert aux financeurs, notamment le Conseil régional et la MEL. Également la grande launch party le samedi 14 mai, un succès également donc pour cette manifestation festive qui avait lieu à la Bourse du Travail et qui a rassemblé celles et ceux qui avait décidé de boycotter la parade officielle d'ouverture d'Utopia Lille 3000. Ils ont en revanche profité de la séance de méditation, présentée par Michel Percher, de krautrock psychédélique, des cuivres de la fanfare Flying Parpaing et de musique colombienne aux sonorités électro.
À défaut de krautrock, tu aurais pu dire rock choucroute. C'est le
rock,
terme.
À part voilà. Choucroute. Oui, à défaut de choucroute, le tout était accompagné de bières fraîches et d'une petite restauration proposée par une chef anglaise de renommée métropolitaine.
Juste pour revenir sur Michel Percher, moi j'ai été effectivement au spectacle, c'était excellent. Bon, bref. Donc j'espère qu'il pourra revenir prochainement. Alors, autre événement donc, qui a lieu aujourd'hui, donc tu l'as invité en parler, donc c'est au Parc Saint-Sauveur. C'est le.
Ah oui, non, c'est l'association.
Pardon, excuse-moi, oui, c'est autre chose. Oui. Pardon, excuse-moi, j'étais.
Dans son projet de fédération des luttes contre les projets de Lamel.
Autre chose. Oui, effectivement, c'est l'association Parc, donc c'est un projet de fédération des luttes contre les projets de Lamel, et donc il y a une seconde réunion qui est prévue le lundi 23 mai à 19h à la MRES suite à celle du 30 mars. Et il est prévu de discuter, donc à la faveur de cette réunion, des statuts et du fonctionnement souhaités et de valider les objectifs et de voir comment les parties prenantes peuvent s'investir dans cette association.
Voilà.
Voilà.
Et également, alors, un petit rappel sur le défilé du 1er mai qui a été bien suivi cette année avec la participation d'environ 2500 personnes.
On peut passer à l'agenda militant de fond.
Oui. Alors, premier rendez-vous, un documentaire, La bataille du libre, donc au cinéma L'Univers. Donc deux logiques s'affrontent aujourd'hui au cœur de la technologie depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus s'attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs dits privateurs du droit de la propriété intellectuelle. Logiciel libre, semences libres, médicaments libres, connaissances libres. En mettant l'accent sur la liberté, la coopération et le partage, elles redonnent de l'autonomie et du pouvoir aux utilisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à faire émerger un monde libéré des brevets au profit du commun. Donc ça sera le mardi 31 mai à 20h au cinéma L'Univers rue Georges Danton à Lille. C'est organisé par l'épicerie associative Robin Desbiot qui d'ailleurs a besoin de vous pour passer un cap difficile. Conférence avec Bernard Friot et de Alternatives Mutualistes intitulée « Sortir du capitalisme » et « Sortir du capitalisme, tout est déjà là, sécu, mutuelle, retraite ». Donc c'est organisé par l'Offensive. C'est le samedi 11 juin à la Bourse du Travail de Lille, boulevard de l'usine à Fives, et c'est à 15h. Donc au programme, discussion avec Alternatives Mutualistes, comment faire vivre une pratique mutualiste anticapitaliste aujourd'hui, point d'interrogation, suivi à 17h d'une discussion avec Bernard Friot, quel travail pour quel avenir. Au LAG, le lieu autogéré de Liévin, projection autour de la thématique du cinéma en révolte. Donc trois dates, le mardi 24 mai à 18h30 avec La Ville Tranquille, un film de Guédigian, oui c'est ça. donc c'est sur des histoires singulières enchevêtrées qui se déroulent dans le même espace à Marseille en l'an 2000 et qui, face à la montée de l'insignifiance et de la confusion, attestent que la ville n'est pas tranquille. Donc suivi du même soir par L'argent fait le bonheur, du même auteur, toujours à Marseille, dans une cité du quartier Nord, un curé constate que la situation se dégrade et tente de trouver des solutions. Donc le lendemain, mercredi 25 mai, donc toujours dans ce thématique du cinéma en révolte, une projection destinée aux enfants à partir de 7 ans, avec « Demain est à nous » de Gilles Demestre. Pour cette première projection, nous te proposons un documentaire dont les protagonistes sont des enfants de ton âge et qui n'ont pas attendu les adultes pour décider de changer le monde. Et enfin, le mardi 7 juin à 18h30, projection de « En guerre » de Stéphane Brisé. Donc, bon, c'est toujours dans cette suite de cinéma révolte, une fiction sur le combat de salariés contre la fermeture de leur usine, suivi le même soir par 300 jours de colère, documentaire de Marcel Tria sur la lutte entre 2001 et 2002 durant 10 mois. Donc les 123 ouvriers de l'usine de filature Moselet à Lille luttent pour l'obtention d'un plan social digne de ce nom. Donc pour ces trois rendez-vous au LAG à Liévin, réservation obligatoire à contact@lelagtoutattaché.fr Et pour finir, prochain rendez-vous d'Elnor Padcado, donc le 25 mai, l'utopie olympique et sportive. Et non, l'olympisme n'est pas écologique, il ne fait pas d'œuvre sociale, n'éduque pas, n'agit pas pour la santé publique, ne respecte pas les territoires qu'il occupe. Il n'a pour horizon que la croissance, plus de records, plus de spectateurs, plus d'argent. Marc Perlman, ou Parleman, je ne sais pas, Parleman, est le commentaire critique à la fois de l'urbanisme de Le Corbusier et de l'idéologie sportive, les deux se rencontrant à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc ça sera au café Les Sarrasins à Lille-Oisem, mercredi à 19h.
Merci Florent. Il est bientôt 13h, merci de nous avoir écoutés, merci à notre invité, donc Paulo Serge Lopez de Virage Énergie. La prochaine émission sera le 18 juin, le thème est encore à fixer.
Et... Je pense que ce sera sur les EHPAD.
Oui.
D'accord, très bien. Merci à tous et bonne journée.
Je t'aime, écosystème, je t'aime.
J'ai de bonnes camomi. Kalanula, guimauve, soja. Rustique, local, goutte, massamaille. Et salut copain, il t'en faut combien?
3 pépins.
Check, 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 ça c'est bien.
J'accorde pour le grain, grenade à la main. Explosion florale dans ton jardin, c'est comme une vague dans le terrain.
Pom.
Toujours couleur subtile dans les rues de ma ville. Peinture au pistil, peinture au pistil.
Je cueille, je fais sécher des plantes de toute la cité. Je prépare mes petites potions. Circulation, digestion. Champignons, prends cette lotion. Un sachet Tifo Papy.
Vous m'envoyez ravi. Le don, ça n'a pas de prix. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus le sens du mot gratuit. Vos tisanes detox, la place dans ma gift box.
Ma vie est belle, la vie est belle. Ma vie est belle, la vie est belle. Écosystème, je t'aime. Écosystème, je t'aime.
Chouette, de nouvelles recettes, je fais mes emplettes, pas d'étiquette, bon coup de fourchette, direct l'assiette, c'est incroyable, c'est comestible, du trottoir à la table, oui c'est possible, quand le bitume devient fertile. Bé, qu'est-ce que tu fais?
Biquette, arrête, pardon, monsieur, vous auriez pas un peu de kéfir à dépanner? S'te plaît, de la verdure, un pot de confiture, non mais sérieux, t'as pas du kéfir, j'ai du lait de chef, t'as pas du pain dur?
Si, tiens. Passe le levain à ton voisin. Yeah, yeah.
Jeter ces mainstream so 2017, récupéré par Bricole si tu veux. J'te prête ma colle, mais s'te plaît, on dit plus atelier. C'est démodé, pour être en vue, faut dire hyper café.